Marcel Durand, auteur de Grains de sable sous le capot, Résistance et contre-culture ouvrière, les chaînes de montage de Peugeot, 1972-2003.
Clatter, crash, clack, cricket, bone, sound, rattle, clang, crack, sack, whack.
Peugeot Sochaux. Connaissez-vous cette usine grande comme une ville, avec son administration, ses lois, sa police? Une vraie fourmilière, régie par une hiérarchie militaire. Grade, appel du début de journée, sanctions, aboiement du sergent, faillot, découpage du travail à la fraction de seconde. C'est le centre de production des automobiles Peugeot de Sochaux. Une usine, une ville. Une caserne où début 1973, environ 35 000 ouvriers s'esquintent la santé sur des chaînes grinçantes.
Eh bien, bonsoir. Voici deux spécimens de l'univers Peugeot, la grande famille, la superbe famille, plus un ancien qui est devant là, un ancien du clan des Planches de Bord. Peut-être que j'explique rapidement comment j'ai écrit ce livre. Au départ, je ne voulais pas écrire un livre. J'ai toujours la manie d'écrire et je faisais des randonnées et je faisais des carnets de voyage. Et je prêtais aux copains, donc les copains me disent « Ah, tu devrais écrire sur Peugeot », puisque c'était la rêve à 81, tout ça. Donc à chaud, j'ai pris des notes et tout, et j'ai fait un compte-rendu de cette rêve qui a duré 3 semaines. J'ai prêté aux copains, et les copains m'ont dit « Ah, c'est bien, mais tu te rappelles, avant, on faisait des comptes, tout ça, tu devrais écrire sur cette période. » Donc c'est la période d'après 68, ça, moi j'ai écrit à partir de 72. Et donc j'ai trouvé des anciens, on bossait ensemble, particulièrement au montage du tableau de bord, enfin, ça s'appelle, il appelle ça les planches de bord, c'est le tableau de bord, il y a la boîte à gants, c'est tout l'ensemble qu'il y a devant. On était 4 copains là, et on a bossé pas mal de temps ensemble, donc on avait plein de souvenirs en tête et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était jeunes, on faisait des cons et tout, donc j'ai essayé de retracer cette période-là. Mais jamais pour faire un bouquin, tout le temps pour un album de souvenirs entre nous. Après, il y a Michel Pialou qui a eu connaissance de ses cahiers, qui m'a dit que tu vérifies la suite et puis on trouve un éditeur. Donc c'est comme ça que c'est sorti en bouquin, la première édition en 90. Donc je vais vous lire quelques extraits et après Christian va pouvoir parler plus ouvert, façon plus large de Peugeot. Donc, j'ai pris le pseudonyme de Marcel Durand parce que je ne voulais pas prendre cette histoire qui était l'histoire de groupe d'ouvriers, donc je ne vais pas me l'accaparer, c'était l'histoire de ce groupe. C'est pour ça que j'ai, voilà, Marcel Durand. Donc, je vous raconte le poste des planches de bord. Alors, les planches de bord, donc, c'est il y a le combiné, il y a toutes les manettes, ça, c'est tout, voilà. Alors, le poste des planches. Le poste des planches de bord est un poste quadruple. 4 ouvriers et 2 visseuses. Chaque visseuse est alimentée en air comprimé par un tuyau souple d'une 12 mètres qui s'emmêle avec les tuyaux avoisinants. Nous prenons les pieds dedans, c'est l'euphorie. Le poste des planches de bord se compose en fait de 2 équipes, de 2 gars possédant chacune un tuyau. Quand l'ouvrier numéro 1 a fini de fixer sa planche, il descend de la voiture, passe le tuyau de l'ouvrier numéro 2, afin de ne pas faire un de nœud, donne la visseuse, qui est au bout du tuyau, à l'ouvrier numéro 3, dépasse l'ouvrier numéro 4 et s'occupe de la caisse suivante. Les foramas auront pigé tout de suite, les autres sont autorisés à redire la phrase. Sur le terrain, nous ne pigeons pas tout de suite non plus, ce qui provoque de sacrés sacs de nœuds. Bref, les 2 gars qui utilisent le même tuyau ont intérêt à accorder leur rythme. Bon, après, il se passe des tas d'aventures, des tas de gags et tout. Et je vais résumer comme ça. Alors, faire le fou pour ne pas le devenir. Jouer, toujours jouer. Atténuer la fatigue physique et nerveuse occasionnée par le travail en jouant. Tout utiliser pour le jeu. Réinventer à chaque instant. Rester créatif, ne pas se plier au rythme de la machine, garder sa personnalité, mettre toute sa fougue dans le jeu, laisser déborder tout refoulement accumulé par le travail appétissant, dire non à la routine boulot, dodo, loto, bobone et les gosses. Travailler et ne faire que travailler en chaîne sans penser à autre chose, c'est s'assurer de devenir dingue au bout de quelques années. Nous, nous préférons jouer au dingue pour retarder au maximum l'heure où la folie et l'usure physique nous rattraperont enfin. De toute façon, nous laissons des plumes sur la chaîne. Nous ne voulons pas nous encombrer de chiffres, mais la longévité d'un ouvrier spécialisé, statistiquement, n'est pas la même que celle d'un directeur. Comment arriver à pratiquer toutes ces activités en travaillant ? Eh bien, en travaillant très vite. Parce que bon, le boulot, il est fait, hein, chef ? On déconne, mais le boulot, il est fait. Au bout d'un moment, on acquiert une certaine habileté. D'où le désir pour certains de préférer rester toujours au même poste, plutôt que d'être avalé à droite et à gauche, contraint de se réadapter chaque fois avant de pouvoir souffler un peu. Un nouveau aux planches de bord ne comprend pas comment les anciens arrivent à bricoler en plus de leur travail alors que lui arrive tout juste à tenir le poste. Une fois qu'on a l'habitude, bon, on arrive à... Alors, plus loin dans le temps, que quelques années après, ils avaient dispersé les gars parce que les clans, les noyaux, ils n'aiment pas, donc ils nous avaient dispatché. Alors, comment reprendre contact, on avait inventé le 1-1, le 1-1. Donc, les grosses têtes vides de la maîtrise croient que nous imitons le mouton. Alors, on fait 1-1. Alors, il ne faut pas confondre avec B et 1-1. C'est pas bellement, c'est un lointain cousin. Peugeot nous prend pour et nous traite comme des moutons. Nous, or, nous ne sommes pas des moutons, pas plus que des numéros ou des pions à haute productivité. Nous refusons de nous intégrer dans le troupeau. 1-1 est notre cri de révolte. La philosophie 1-1 ne s'arrête pas là. Il suffit d'employer les intonations appropriées pour transformer l'onomatopée 1-1 en bonjour, ça va, ras-le-bol, en fainéant, connard, je t'emmerde, 1-1. Cri de ralliement tout aussi 1-1, mon cœur admiratif énervé 1. En préparation de 1-1 ou devient un nom, salut 1-1. Espèce de conversation entre deux 1-1. 1-1 samedi, tu travailles samedi 1-1 ta femme, oui. Avec ta femme, oui. 1-1 ma boule, t'es ma boule. 1-1 canette, ta canette. 1-1 mais 1-1, j'avais mais j'ai plus. Ça peut... On s'amusait bien, quoi. Donc là, on passe les années, on a fait un coup de vieux et tout, et il y a la guerre 89. Alors, il y a eu d'abord la guerre 81, où c'est parti à notre boudin, parce que bon, les syndicats, finalement, les dirigeants syndicaux ont réussi à reprendre le boulot. Donc, en 89, on se dit, bon, il ne faut pas qu'on se fasse savoir comme ça, il faut qu'on prenne nos affaires en main. Donc, on essaie de monter un comité un comité quoi, d'ouvriers indépendants des syndicats pour maîtriser le truc de la grève. Alors, je reprends le texte là. Ohé, ohé, on veut des sous. Ohé, et hop, 1500 balles. Donc, c'était les slogans qu'on lançait à l'usine. À Sochaux, dès le début des débrayages, un groupe d'ouvriers très minoritaire, dans lequel on retrouve plusieurs 1-1, tente de mettre sur le tapis les conditions de travail, la réduction d'horaire. Revendications qui ne seront évidemment pas relayées par les délégués engagés dans le conflit. L'augmentation de salaire, c'est fédérateur. On ne peut pas tout mélanger. D'abord la paye, le reste on verra par la suite. Unité d'action pour une unique revendication, mais chaque syndicat diverge sur la somme. Le plus gourmand, la CGT, réclame 1 500 francs. La CFDT, 500 francs. Et FO, 250 francs. C'est-il que les affiliés FO, moins discriminés, ont moins à rattraper que les communs cégétistes? C'est une question. C'est bien 1500 balles qui est hurlé par la majorité des grévistes, écrit sur les pancartes, tagué sur les armoires et les murs. Les slogans tournent autour du fric. Calvez des sous, prennent pour cible les cadres, les cravates enchaînent ou s'adressent aux non-grévistes. Venez avec nous, mais l'interpellé ne broche pas. Fayo, cocu, siaf, l'apostrophe grévistes. Certes, ce syndicat, un jour des jaunes. Les délégués ne veulent pas se battre pour devenir une condition de travail. Deux ou trois grévistes font la grève dans la grève. Ils récupèrent des boîtes vides de cuisserie. Sur une face, ils tracent en feuille cadence égale moins 20%. Sur d'autres boîtes, on peut lire du sous, bordel. 1500 francs tout de suite pour rien. Ouvrier en colère. C'est dur de bosser la vessie pleine, etc. Ils proposent ces chapeaux de fortune à leurs compagnons de combat. Il s'agit de faire passer le message en direction comme au syndicat. Davantage de fric, certes, mais aussi du temps pour souffler. Que les syndicats soulèvent le problème de la dureté du boulot, nom de Dieu. Que la direction se l'imprime dans le ciboulot. Que la presse le dénonce. Que les trouillards qui continuent à bosser se réveillent enfin. Du point de vue d'un PDG du genre Calvet, un OSQV 1989 n'est que le prolongement de la machine. Plus la machine va vite, plus l'OS doit courir. Une fois les bras et les jambes robotisés, on oublie son humanité jusqu'à ses besoins les plus élémentaires, pisser ou se moucher. On tient le poste, on est rentable pour l'entreprise. Le patron demande toujours plus d'efforts sans rien donner en retour. Les syndicats sauront-ils surmonter leur division? Ils devront compter avec les ouvriers, surtout ceux confrontés aux dures conditions de la production. Nous sommes en effet 40 000 salariés à Sochaux en 1979 et seulement 23 000 10 ans plus tard pour une production presque équivalente. En 1986, les ouvriers en production ont chômé 23 jours mais compensés par une intensification des cadences. L'équivalent de 5 jours de travail compressé en 4. Et le temps du chômage terminé, les cadences restent. La direction calcule qu'en 5 jours, on boucle la production de 6, puis elle ajoute le samedi. Pas mal d'ouvriers qui ne font plus confiance au syndicat hésitent à rejoindre les grévistes. Les inventeurs de la boîte à visserie support revendicatif se concertent donc pour monter un comité de travailleurs. On rédige et on distribue nos propres tracts. Il faut faire comprendre aux gars que ce sont eux qui décident, pas les syndicats. Que cette grève soit celle des OS, qu'elle ne soit récupérée par personne. Bon, j'arrête là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire.
Bloquer la chaîne. La chaîne, ses maillons, ses roulettes et ses crochets glissent dans une longue coulisse centrale. Nous laissons tomber un objet dans cette coulisse. Bout de ferraille, gage de porteur, enjoliveur. La chaîne passe sur l'objet indésirable. Elle le plie, le tord dans des grincements sinistres. Elle se bat avec l'intrus, se cabre, se relâche en brusques secousses, puis finit par s'immobiliser, coincée. Le jeu consiste à calculer le temps que mettra l'obstacle à bloquer la chaîne. Nous engageons des paris dont l'enjeu est une canette ou une bouteille de vin. Une chaîne bloquée, c'est comme une fourmilière qui a reçu un coup de pied. Il y a de l'affolement dans l'air, les chefs courent dans tous les sens, les faillots sont consternés. Les gars à deux l'entretien arrivent au pas de course, pied de biche en main, pour déceler l'endroit où ça coince. Hey les gars, prenez votre temps, il n'y a pas le feu, nous on prend bien le temps de boire un coup et de lever nos verres. Ça nous fait un dépannage supplémentaire, surtout quand cette époque phase, nous ne récupérons pas encore les pannes.
Christian Corrouge et Michel Pialou résistaient à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue. Au début des années 80, le sociologue Michel Pialou rencontre Christian Corrouge, ouvrier et syndicaliste chez Peugeot Sochaux. Il entame un long dialogue sur le travail à la chaîne, l'entraide dans les ateliers et la vie quotidienne des familles ouvrières, à partir de l'histoire singulière d'un ouvrier. En 1983, l'usine Peugeot de Sochaux est par le nombre de ses salariés la plus grande de France. Elle emploie environ 30 000 personnes et on a compté jusqu'à 40 000 au début des années 1970. Le mur qui l'entoure s'étend sur plus de 10 km. Elle est constituée de plusieurs grands ateliers, carrosserie, fonderie, emboutissage, etc. dont chacun emploie plusieurs milliers d'ouvriers et constitue une sorte d'usine dans l'usine.
De larges avenues séparent ces différents ateliers. L'une d'entre elles, qui s'étend sur plusieurs kilomètres, a été surnommée les Champs-Élysées. L'usine constitue un univers d'un type bien particulier, à la fois ouvert sur le monde extérieur et très isolé, mais qui, si l'on peut dire, respire d'un rythme propre parce qu'il est régi par des sortes de lois, écrites et non écrites, le système Peugeot.
D'abord, je vais commencer par mon entrée dans l'usine, parce que 42 ans, ça fait loin. Mais à cette époque-là, Peugeot, pour alimenter ses chaînes de montage, ainsi que Renault, ou Linex, ou Dassault, venait directement dans les CET à l'époque nous recruter. Ça veut dire qu'on sortait des CET avec un CAP d'ajusteur, de tourneur ou de fraiseur. Et il y avait des sergents recruteurs qui passaient dans les écoles, et qui, moi par exemple, j'habitais Cherbourg, et donc j'ai vu ces sergents recruteurs arriver avec des discours vantant leurs conditions de travail et des avantages liés au contrat de travail, à savoir l'hébergement des jeunes travailleurs, les plus en nature, les réductions sur les bagnoles, etc. Et donc j'arrive dans cette usine, dans ces conditions-là, et au début de cette usine, on est à peu près 10 000 jeunes travailleurs ayant moins de 25 ans dans ces années-là. Rappelez, c'est 44 000 personnes à l'époque, et c'est une ville complète qui vit jour et nuit, qui palpite jour et nuit, avec des traditions, mais avec aussi beaucoup de malheurs, avec un poids important sur tout un ensemble, puisque Peugeot, dans la région, c'est le seul fournisseur de travail, et en même temps propriétaire des logements, propriétaire des chaînes d'alimentation, ça s'appelait les ravis, ça voulait dire, l'abréviation c'est ravitaillement Peugeot, voilà, et donc à ses propres grandes surfaces pour alimenter cette population ouvrière. Ça veut dire que le salaire qu'il donne d'à côté, qui est à peu près un tiers de plus que le SMIC gagné en France, on gagnait un tiers de plus que le SMIC à l'époque quand on était embauché, donc c'était important au niveau des salaires, et en même temps, presque la totalité de notre salaire était reversée directement dans les caisses de Peugeot à travers ses logements et ses magasins. Et, ou sinon, quand on avait un peu de fric, on achetait une bagnole, donc on lui redonnait la totalité, même on s'endettait pendant très longtemps pour acheter une de ces merdes. Et le truc, jusqu'au service militaire, pour moi, jusqu'au service militaire, c'était de participer au groupe Evenkin, être militant et attendre le service militaire, qui était une grande cassure dans le milieu ouvrier, puisque ces jeunes ouvriers souvent étaient mis en chaîne avant leur service militaire, et souvent ne revenaient pas après le service militaire, parce qu'on ne vivait pas le même problème de l'emploi que maintenant, encore que suivant les régions en France, dans le Pas-de-Calais, en Normandie, dans l'ouest de la France, le problème du chômage existait déjà, contrairement à ce qu'on veut dire par rapport aux 30 Glorieuses. En 73, moi je pars à l'armée, et donc les copains, quand on part à l'armée, alors je découvre aussi dans ces années-là que travailler en chaîne, c'est quand même d'être attaché, d'être enchaîné à un système de montage, donc d'être dans la capacité complète de se mouvoir à l'intérieur de l'usine pour aller voir un peu comment c'est des autres ateliers. Un atelier qui est à 100 mètres, quand on est en chaîne en carrosserie, l'atelier de mécanique qui est à 100 mètres ou à 200 mètres n'est jamais visité, on ne peut pas s'y rendre, on n'a pas le temps matériel, il faudrait rester après les heures de travail, mais au bout de 8 heures ou 8 heures et demie de chaîne, c'est quand même pas simple. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les horaires de travail, c'était on prenait 4 heures moins le quart le matin et on finissait à 11 heures moins le quart le soir. Je veux dire, donc c'était 9h, 9h15 de travail, sans compter les trajets pour se rendre au domicile, donc ça fait des absences souvent de 10 heures, de 11 heures, et même de minuit, de 12 heures, pour ceux qui habitaient très loin, puisque Peugeot allait chercher des ouvriers à 50 ou 60 km de l'usine. C'est l'époque aussi où la classe ouvrière est encore composée aussi, pas de forcément d'ouvriers de plusieurs générations, et composée aussi d'ouvriers paysans, qu'on appelle ça, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la ferme natale en Haute-Saône ou dans le Haut-Doubs, et viennent travailler à l'usine en gardant un petit lopin de terre avec deux vaches, deux lapins et deux poulets. On vit aussi une usine assez particulière, dans le sens que non seulement dans les 45 000 personnes, mais c'est un endroit social à la limite très accueillant et très chaleureux au niveau du groupe ouvrier, puisqu'on peut se ravitailler en œufs, en crème, en lapin, en chevreuil, en sanglier, en pinard, en bière, en cigarette. Il y a un marché en vêtements, on a en sous-vêtements aussi. Donc on a tout ça dans l'usine qu'on peut acheter sans se déplacer particulièrement dans d'autres magasins. Tout se fait dans l'usine, c'est une vraie ville avec des rites. reviens de l'armée, je décide de réfléchir avec d'autres copains de ma section syndicale sur comment obliger les directions syndicales à prendre notre avis en compte et différemment. Et donc on commence à travailler dans ce circuit-là en mettant le problème des chaînes en préalable de tout. À savoir, je vais vous raconter une anecdote comme ça. En 81, quand Auroux décide de passer la semaine de travail de 40 à 39 heures, ça se traduit par une heure de moins pour un technicien, ça se traduit par une heure de moins pour un ouvrier professionnel, ça se traduit aussi pour nous sur les chaînes de montage à une heure de moins de travail, sauf que si on faisait 350 voitures avec 40 heures, en 39 heures, on fait aussi 350 voitures. Ça veut dire que Peugeot a accéléré la chaîne d'un certain pourcentage qui permet de nous payer 39 heures, comme il nous payait 40 avant, mais sauf qu'on fait exactement le même volume de travail, sans embaucher personne. Alors la fabrication du nombre de voitures, elle est compliquée aussi chez les OS. Autant ça paraît simple, autant dans un bureau, autant c'est compliqué. La production automobile a ça de particulier, que c'est un produit qui bouge tout le temps. À savoir, si dans les années, comme raconte Bébert, les planches de bord, les sièges, etc., les panneaux de porte sont beaucoup montés en vissant les éléments sur la voiture, à partir de la 205, et c'est des valeurs, enfin des dates symboliques dans l'automobile, la Golf chez Volkswagen, la R5 chez Renault, il y a un changement de produit, les matières plastiques, les matériaux plastiques arrivent dans la voiture, et la façon de monter la voiture est complètement différente. Au lieu de mettre des vis, on met des butées, et donc on clipe. Ce qui a, donc il faut toujours pousser, c'est beaucoup plus léger, ça se monte plus vite, et donc il y a un gain de temps considérable pour les patrons. Ce gain de temps, il aurait pu le dégager pour que nous, on puisse avoir une récréation, apprendre, se cultiver, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à faire tout à fait autre chose que de continuer. Or, ce gain de temps, bien sûr, il a chargé la mule, c'est-à-dire qu'il nous a obligé le moindre seconde gagnée parce qu'une opération de vissage était supprimée pour mettre une butée à la place, il nous a bien obligé, au lieu d'en mettre une, il est dans le milieu. Voilà, donc on s'est retrouvé saturé. Ce qui explique à l'heure actuelle, d'ailleurs, le tas de maladies périarticulaires qui arrivent et qui explosent ces temps-ci, c'est parce que contrairement à un système de vissage, le problème de mettre des butées et de toujours appuyer, c'est on casse les tendons, on casse les coudes et les épaules. Et donc, pour remédier à ça, Peugeot embauche des intérims. Et voilà toute la situation de l'automobile à l'heure actuelle. 2000 intérims qui ont les postes les plus pénibles, les plus désagréables, les plus durs, qui en même temps vont ne jamais se manifester, puisque de toute façon, quand leur maladie professionnelle se déclarera, ils ne seront plus dans l'usine. C'est un peu la tactique patronale. Alors, pour revenir sur les années 73, parce qu'en 73, il arrive quelque chose d'essentiel dans l'usine, c'est qu'en 73, le CNPF tire les enseignements de 68. Il tire une seule conviction que ces grands pôles industriels ne doivent plus exister, donc on doit séparer ça en petites unités pour pas que des conflits de telle importance arrivent comme ça brutalement. Et donc, pour dynamiter ces conflits, il faut avoir de plus petites identités industrielles. Donc, à partir de 73, donc agit ceci sur l'éducation nationale pour la formation des jeunes ouvriers. Et on voit qu'à partir de 73, dans les CET, on les transforme en LEP, et à partir de là, on commence à apprendre aux gamins qui sont à l'école à savoir se vendre et avoir un diplôme qui, à la limite, n'est plus collectif, mais qui est purement individuel, individualisé. Et en même temps, dans les usines, on commence à individualiser les salaires. Il ne faut pas croire non plus qu'en chaîne de montage, les postes peuvent être équivalents, peuvent être équilibrés d'une façon sérieuse, pesée scientifiquement, comme ils nous disent, sur une équipe de 30 personnes qui travaillent sur la même chaîne de montage et dans la même équipe, il y a un ou deux postes bien privilégiés qui sont plus durs que les autres. On appelle ça les postes de punition. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive en retard, ça veut dire que quand quelqu'un met de la mauvaise volonté, ne veut pas venir travailler le samedi, prend la mauvaise carte syndicale, débraye, insulte le chef, se tient mal, comme bébé... On on appelle ça les postes de punition. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive en retard, ça veut dire que quand quelqu'un met de la mauvaise volonté, ne veut pas venir travailler le samedi, prend la mauvaise carte syndicale, débraye, insulte le chef, se tient mal, fait le fou. Ces gens-là, il faut les dresser, il faut les remettre en rang. Et donc, on le met 15 jours ou 3 semaines au purgatoire, donc sur un poste de punition. Par exemple, je vais vous raconter un poste de punition qui existait au montage châssis, c'était la frappe-caisse. Tout le monde a sait lire une carte grise de voiture avec tous ces chiffres et puis toutes ces lettres qu'il y a sur une carte grise de bagnole. En moyenne, il y a une erreur ou deux erreurs par jour à ces frappes, parce qu'il faut frapper numéro par numéro sur la caisse. Et donc, à 4h du matin, le gars n'est pas encore réveillé, à place d'un W, il prend un V, et donc, voilà, c'est une erreur. Et à chaque fois qu'il y a ce genre d'erreur, c'est un jour à pied. Nous, on a eu un copain qui était délégué, il s'appelait Philippe Marchaud, il a fini par ce système de brimade, de poste de punition, à se tirer une balle dans la tête, il avait 28 ans. Bon, okay, je vous parle bien d'une époque pénible, dure, franchement physique, avec une répression syndicale féroce. C'est ça, le souci de la répression syndicale, c'est ça. C'est d'arriver, quand on prend un mandat de délégué, on est sûr que jamais son épouse se rembauche à l'usine, qu'aucun de ses enfants se rembauche à l'usine, que dans la région, puisqu'il y a Peugeot, il n'y aura pas d'embauche pour eux, et tout au tard, il faudra partir de la région pour trouver un boulot. C'est ça, la répression syndicale féroce. Et donc, tout ça, voilà, c'est les années 70. Et donc, 80 arrive. 181, à savoir pour la première fois, on arrive à mettre une usine d'OS, c'est-à-dire 12 000 personnes à l'époque, en grève, sur des revendications uniquement de cadence, de production, de cadencement. Parce que dans ces usines, les cadencements, c'est pas... Il y a des voitures chères et pas chères. Une voiture chère, c'est une voiture haut de gamme, avec beaucoup de travail dessus à faire, beaucoup plus, donc parce que il y a des fois des clients qui sont dégueulasses avec les OS. Ils veulent l'air conditionné dans les bagnoles, ils veulent des radars dans les bagnoles pour se garer, là, la voie, on sait où est la bagnole d'après. Tout ça, on ne pense pas quand on achète la bagnole qu'il y a un fil de plus à brancher, ou deux fils, ou trois fils, et des fois c'est une merde en plus. Hein. Et donc c'est ce qu'on appelle des voitures chères. Donc parce que c'est bien la même bagnole, mais avec plus d'options, donc il y a beaucoup plus de travail à faire. Donc ces voitures chères qui arrivent en chaîne, devraient être cadencées d'une façon, quatre voitures pas chères et une voiture chère. Voilà, devrait être. Mais suivant les clients, parce qu'ils commandent tous des voitures chères en même temps, la direction se trouve un peu scientifiquement est un peu débordée, et donc arrive à nous bloquer 5 voitures chères d'un seul coup. Et dans ce cas,